dès 19h devant la porte B de la maison de Radio France.
Qu'est-ce qu'il y a, Daniela ?
Non, je vous trouve très méchant.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
15h03 sur France Inter. Vous retrouvez tout de suite là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Oui, bonjour, c'est Jean-Michel des Transports Cordiers. Bon, Hollande, on en a marre de ton gouvernement. L'écotaxe, on n'en veut pas. Les Bretons, j'espère qu'ils vont faire une bonne révolution, qu'on puisse suivre derrière, nous les routiers. On est bon qu'à payer en France. On va crever la faim. C'est ça le gouvernement de gauche. On en a plus que marre. Il faut descendre dans la rue. Que fait Mélenchon? On en a plus que marre. On va tous crever si ça continue. Il faut faire quelque chose.
Alain Finkielkraut les a vus. Les envahisseurs. Et il doit à présent convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Da-da-dam, 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 da-da-dam. Alain Finkielkraut sur tous vos écrans.
Ce sont des Pinocchio. Il faut le dire aux enfants. Pinocchio.
Oui, bonjour, c'est Amaury du Nord. Je vous appelle parce que moi j'avais vu arriver les portiques. Je travaille dans l'automobile. Et je me doutais que ça allait être putain de fiasco. Donc il faut savoir qu'ils nous ont endettés pour 800 millions d'euros. Ils passent des accords avec des sociétés. Donc là, tout simplement, on est en train de brader la France. On a une pépite entre les mains, et que ce soit la droite, que ce soit la gauche, ils bradent la France. Les autoroutes, c'est nos parents et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui l'ont payé avec leurs impôts. Et là, on va nous taxer, en plus, sur quelque chose qu'on a déjà payé. Mais il faut arrêter de se faire plumer. Il y en a ras-le-bol, on a des incompétents qui sont à notre tête, qui ne savent pas gérer un budget, c'est une catastrophe. Bonne journée.
Salut Daniel, et ben voilà, c'est ça là-bas si j'y suis. Voilà, ça c'est une bonne émission, et toute la semaine jusqu'à jeudi, ben oui, pas vendredi. Mais bon, c'est impeccable. Ces reportages, ces gens, ces bruits, je sens tout, moi, je fais marcher tous mes sens, tu vois. J'écoute, je sens, ouais, je vois, c'est très bien des reportages comme ça. Moi, ça me plaît. C'est mieux que des fois sur des trucs, mais bon, on tourne en rond, tandis que là, on entend des gens, on peut voir ailleurs. Et c'est là-bas, si j'y suis, c'est ça. Bon courage à vous là-bas et vive la Pologne libre. Salut.
Salut, c'est Nick. On est lundi 28, il est 15h25. Je suis en train d'écouter là-bas si j'y suis, vous voyez. C'est total à l'individu. Voilà, je suis en train d'écouter là-bas si j'y suis. Et là, Daniel, il y a quelque chose que je comprends pas, parce que là, ce monument construit en Pologne par Staline en 55, je comprends pas bien, parce que Staline est mort en mars 1953. Alors j'ai raté un épisode là dans ce que tu disais, j'étais en train de me faire une soupe, mais 55, il était mort depuis 2 ans déjà, Staline. Alors bon, je continue à écouter. Au revoir.
Bonjour, ma mère disait que les Polonais ne s'étaient jamais aussi bien sentis que pendant une occupation étrangère. Quand c'était leur gouvernement, c'était la misère noire. Et c'est toujours l'Église catholique qui régnait sur le pays, même pendant le communisme. Et aujourd'hui, c'est elle toujours qui tire les ficelles. Bien sûr que ce n'est pas tant les Polonais dans leur majorité, mais tous ceux qui se prosternent devant le pape.
Et ben voilà des réactions à l'émission d'hier, la première sur cette série, cette semaine, en Pologne. Pologne, plombier, miracle et gaz de schiste. Une précision, évidemment, oui, bien sûr, le grand petit peur des petits père des peuples, Joseph Staline est mort en 1953, mais le palais de la culture qui trône au milieu de Varsovie, eh ben effectivement a été construit à ce moment-là, mais pas par lui-même. C'était son testament, c'était un cadeau qu'il a légué à cette ville en mourant au moment de sa mort. Je dis cadeau parce qu'aujourd'hui c'est ce que c'est devenu, on en a parlé hier, au milieu de la ville de Varsovie, il y a ce palais de la culture qui est complètement récupéré par la Pologne et par la Varsovie actuelle, qui en a fait ce lieu de repère, de culture, et qui est le symbole de la ville. Aujourd'hui, vraiment c'est cette ville est la ville de la mémoire, et la ville de l'histoire, et la ville de martyr, quand même. Varsovie est détruite à 95% en 1944 et aujourd'hui ressuscitée. Mais un mot qui nous a frappé avec Antoine, c'est Gloria Victis. Ah, Gloria victis, gloire au vaincu. Et on s'est dit que c'est ça qui marque probablement le plus précisément l'histoire de la Pologne et de cette ville de Varsovie, qui marque et qui sauve en même temps la mémoire des vaincus, qui malgré tout se sont insurgés. Les Juifs héroïques du ghetto de Varsovie, le fameux soulèvement du ghetto de Varsovie le 19 avril 1943, qui était un soulèvement désespéré, bien évidemment, mais qui a sauvé quelque chose de l'honneur, de la mémoire et des Juifs, mais de toute notre humanité. Donc, gloire aux vaincus. Et puis, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, le 1er août 1944, l'insurrection, alors de tout le peuple de Varsovie, une insurrection désespérée qui a été écrasée par la Wehrmacht, par le Reich, 63 jours, 200 000 morts, dont 180 000 civils, qui avaient été lâchés par les soviétiques, immobiles, qui n'ont pas bougé, qui étaient pourtant là, avec toutes les troupes de l'armée rouge le long de la Vistule, du fleuve qui borde Varsovie, tout autant abandonnés par les alliés. Les accords étaient déjà établis entre les alliés, Churchill et Staline. Donc, les Polonais, là, cette fois, étaient tout seuls. Donc, peuple martyr, peuple héroïque, la double face d'une même identité, Gloria Victis. Voilà, nous sommes dans cette histoire, nous sommes dans cette ville, ensemble jusqu'à 16h dans la Basse-Sigis, 16h ou presque, dans la Basse-Sigis. Je suis auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous les AMG de Séville et d'Andalousie. On se réunira demain au bar Alpha Keke, dans la calle San Vicente, numéro 13. On parlera de l'indépendance de la Catalogne, de la possible indépendance de la Catalogne, voilà. On se réunira à partir de 9h. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.
Aux AMG, je vous livre le résultat de mes écoutes téléphoniques concernant Obama, Poutine et Hollande. Obama. Salut Vladimir. Je suis dans un beau pétrin avec ma politique intérieure et mes déclarations guerrières à propos de la Syrie. Pourrais-tu m'aider, Poutine? Salut Barack. Que puis-je faire pour toi, Obama? Désempête-moi de la Syrie, Poutine. Comment? Obama, j'ai une idée. Propose qu'on s'occupe de détruire le stock d'armes chimiques. Je te laisse agir. Poutine. D'accord. Obama à Hollande. Salut Pépère. Je me suis arrangé avec Vladimir pour la Syrie. Arrête tes propos bellicistes et occupe-toi avec le Mali. De toute façon, je ne pourrai pas t'aider. Salut.
Salut à tous. Alors bon, moi j'entends à la radio, les États-Unis, ils écoutent Merkel pendant ses vacances sur la plage, et puis Hollande, et puis tout le monde, machin, et bidule, les truchemus, qui on s'en offusque, oui, il y en a marre, ces ricains là qui nous écoutent tout le temps, fait chier, pourtant c'est des potes et tout. Écoutez, moi je vous dis merde quoi, parce que là vous nous foutez de notre gueule, grave. Je suis syndicaliste en agriculture. Lorsque l'on a une action à conduire, eh bien, nous organisons donc une manifestation. Et si on passe par le téléphone ou par le mail, eh bien, comme par hasard, les flics, ils arrivent avant nous. Alors, il faudrait arrêter de nous prendre pour des cons, là, sur les grandes chaînes nationales. Nous, les petites gens, on est écoutés. Arrêtez de nous prendre pour des cons, putain, et gouverner les pays comme il faut. C'était Jérôme dans la Drôme qui en a un peu plein le cul et qui le dit haut et fort.
Est-ce qu'on est capable d'imaginer à quoi ressemblait ce qu'on a sous les yeux en 1945, quand 85% de la ville a été détruite? 85%.
Donc il y a les bouts de mur en fait qui sont restés.
P comme Pologne et une encre comme la lettre Walka, la lutte.
Comme le W, d'accord. Oui. La Pologne en lutte.
Oui, c'est vrai. Et ces signes sont omniprésents dans notre capitale. L'histoire est toujours présente en Pologne.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao, Pologne, plombier, miracle et gaz de schiste.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà, c'est un mur qui doit faire une centaine de mètres de long au moins, et de marbre gris, avec des milliers de noms. Des milliers de noms écrits sur ce mur. Et c'est les noms, évidemment, des victimes et des héros de l'insurrection de Varsovie, 1944.
Cette page d'histoire se situe entre le 1er août et le 2 octobre 1944.
ORTF, 26 novembre 1969.
À l'époque, la situation militaire est la suivante. À l'ouest, les Alliés ont déjà débarqué en Normandie et à l'est, les troupes allemandes ont été repoussées hors de la Russie. L'armée rouge avance rapidement, on pourrait même dire inexorablement, vers Varsovie et c'est le moment que choisit la résistance polonaise pour décider de déclencher une insurrection pour libérer elle-même sa capitale. Le 1er août 1944, donc, à 5 heures de l'après-midi, au même moment, à la même minute, les Polonais de Varsovie ouvrent le feu sur tous les Allemands qui se trouvent à leur porte. Il faudra 63 jours aux divisions allemandes pour venir à bout de cette insurrection, pour la réduire quartier par quartier, rue par rue. Et lorsqu'ils en viendront à bout, il ne restera pratiquement plus rien de Varsovie. Les résistants polonais, en effet, se sont battus jusqu'au dernier homme en espérant l'arrivée des secours, c'est-à-dire l'arrivée de l'armée rouge. Mais les soviétiques, qui se trouvaient pourtant de l'autre côté de la Vistule, ne sont pas intervenus.
К вам обращаюсь я, друзья мои. Мировое военное нападение гитлеровской Германии.
Le bâtard de l'Europe. Le bâtard de l'Europe. C'est ainsi que Hitler qualifiait la Pologne. Le bâtard de l'Europe. Et c'est ce qui justifia la Blitzkrieg, la guerre éclair du 1er septembre 1939. Lorsque les armées du Reich ont envahi la Pologne. On oublie que quelques semaines plus tard, c'était au tour de l'URSS d'arriver par l'autre côté et de faire à nouveau disparaître ce pays. Quatrième partage de la Pologne. Ça se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Il ne faut pas oublier qu'entre 1794 et 1918, le 11 novembre 1918, la Pologne avait disparu. Et le 11 novembre, chaque année, c'est la fête nationale de la naissance, de la renaissance de la Pologne. Drôle de pays où toute notre histoire européenne est concentrée. Si on s'intéressait vraiment à l'Europe, l'Europe de la culture, l'Europe de l'histoire, de la mémoire, notre Europe, eh bien, on commencerait par probablement par là, par Varsovie. C'est là que toutes ces forces sont rencontrées, colletées dans une horreur totale, dont cette ville a masqué aujourd'hui les stigmates. Ville détruite à 95% en 1944, reconstruite courageusement, héroïquement, avec des paniers de pierre et de terre sur les épaules et sur le dos des habitants qui voulaient reconstruire leur ville telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, bien souvent comme un décor. On ne peut pas ne pas penser que c'est autre chose qu'un décor, la Varsovie hospitalière et sympathique d'aujourd'hui. Mais on voit bien tout de suite dans le tissu urbain des manques, des trous, des avenues trop larges, quelque chose qui manque. Peut-être c'est 6 millions de Polonais qui ont disparu dans cette époque, peut-être les 200 000 de l'insurrection de Varsovie que nous allons évoquer. On va évoquer cette
insurrection dans le musée de l'insurrection de Varsovie. C'est un musée qui a un succès fou, vous allez voir. Un musée narratif. Vous allez voir comment ça se présente, mais il a été curieusement inauguré en 2004. C'est très récent. Ça fait 60 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La Pologne a été communiste et la Pologne communiste ne voulait pas trop reconnaître cette insurrection. On va voir des versions qui ont été données de cette insurrection. Et aujourd'hui, une autre version de l'insurrection par un certain patriotisme tout à fait légitime polonais, mais quelque chose d'un peu nationaliste, un peu... Et comme le disait cette auditrice, le catholicisme n'est jamais bien loin. Alors... Jamais comme à Varsovie, jamais comme dans ce musée, peut-être, l'idée que l'histoire sert aux nécessités du présent. L'histoire est toujours interprétée, l'histoire est toujours manipulée selon... Et bien sûr, chacun prétend rétablir la vérité. Mais on va voir comment cette insurrection a pu connaître de versions, d'interprétations à partir d'un... la simple nécessité, justement, qu'éprouve collectivement un peuple opprimé, injustement bafoué, injustement considéré comme un bâtard. C'est jusqu'à 16h ou presque, c'est là-bas si j'y suis.
De Varsovie, parce que le régime communiste était contre cette idée de l'insurrection, contre les insurgés, contre notre armée secrète qui en fait a commencé cette insurrection.
Voilà, c'est l'entrée du musée de l'insurrection. Et dans la première salle, il y a des cabines téléphoniques avec 5 portraits donc de vétérans.
Ceux-ci sont encore vivants, il y en a plus de 200 encore.
Il y a un bombardement là, Daniel, je crois que...
Oui, et pendant ce temps-là, ça téléphone, alors attends.
Valetna Vochnichka, donc c'est la femme qui transporte le message. Les insurgés se rencontrent ici, 31 juillet chaque année.
Il y a 23 guides. C'est du boulot, c'est l'industrie de la mémoire, quoi.
Aujourd'hui, nous avons 30 groupes.
Aujourd'hui, qui passent dans la journée, 30 groupes. C'est tous les jours comme ça.
En français, en allemand, en anglais et en polonais.
Alors, j'appuie sur un autre bouton. Énorme, cet avion, là, quadrimoteur. Reconstituer les égouts aussi.
Oui, parce que c'est une partie vraiment importante de l'insurrection. Par exemple, donc fait signe de reconnaissance de l'armée secrète polonaise.
Ah, c'était les brassards.
Les brassards qui étaient portés par le soldat de l'armée secrète polonaise.
Alors combien ils étaient, cette armée secrète?
Ben, c'est difficile à dire parce qu'en fait, ici à Varsovie, il y avait 50 000 d'eux, mais en toute la Pologne, 400 000 en fait, dans tous les pays.
Il a ouvert quand ce musée?
En 2004.
En 2004.
60 ans après l'insurrection. C'est là, c'est la part la plus importante de notre musée, notre caire. Caire qui bat 63 fois minute par minute parce qu'il y avait 63 jours de l'insurrection. Vous pouvez entendre tout le son de l'insurrection. Il y a des chants, il y a des prières par exemple.
Il suffit de coller son oreille contre le mur et je vais entendre battre le cœur de Varsovie. Et je vais entendre le bruit de l'insurrection.
C'est vrai.
De 1944. Les 63 jours. Alors voilà, je colle mon oreille.
Je vais vous lire maintenant les informations de Varsovie. Hier, les détachements de l'AK ont lancé des assauts couronnés de sérieux succès. Vers midi, suite à une action hardie dans le voisinage de l'église Sainte-Croix, l'ensemble des bâtiments du commandement de la police a été pris à l'ennemi. La résistance des Allemands était longue et acharnée. La zone de notre attaque était constamment sous le feu nourri des Allemands. Si la défense allemande était acharnée, les assaillants de l'AK ont fait preuve d'un courage et d'une hardiesse inouïe.
Alors le musée de l'insurrection de Varsovie, vous avez compris, c'est un succès formidable. C'est un musée narratif qui est pas très loin de la bande dessinée, avec des explosions, des images qui vous sautent de tous les côtés. C'est pas très très facile de comprendre ce que vous voyez, mais ça a du succès, c'est une façon de sensibiliser probablement, en tous les cas selon ceux qui l'ont créé et qui l'animent, quelque chose qui satisfait en tous les cas le public actuellement. Mais on va essayer de revenir un petit peu sur cette histoire. Hitler envahit la Pologne, puis l'URSS arrive très rapidement de l'autre côté, c'est le quatrième partage. Là, il y a un épisode qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est celui de Katyn. C'est l'épisode de Katyn qui a été révélé, dont la vérité a été révélée il n'y a pas si longtemps, peut-être une quinzaine d'années tout au plus. C'est ce moment où les soviétiques raflent les intellectuels et l'élite polonaise, et 4500 personnes sont abattues d'une balle dans la tête à Katyn, donc en mai 1940. C'est le fameux charnier qu'on peut visiter toujours aujourd'hui. Longtemps, ce crime a été attribué au Reich, mais en fait, c'était bel et bien un crime soviétique, puisque aujourd'hui, les Soviétiques, enfin les Russes l'ont reconnu. Suivi d'une déportation de centaines de milliers de Polonais vers la Sibérie. Si la Pologne était le bâtard de l'Europe pour Hitler, pour Staline, c'était pas très différent. La Pologne occupée, il y aurait une collaboration assez faible, ce dont évidemment souffre, on le voyait dans le message de l'auditrice, les Polonais aujourd'hui, c'est cette image de « Ah oui, mais vous avez laissé faire hein ?» On pense évidemment à la destruction des Juifs. Vous avez laissé faire. Et puis vous n'avez pas donné un petit peu la main, vous n'avez pas donné un coup de main. Et puis vous-même, vous avez procédé à des exécutions. Tout ça est horriblement vrai, hélas, vrai, mais ça suffit évidemment pas à construire une identité polonaise, ni à dire les Polonais sont comme ci et comme ça. Et évidemment, c'est une mémoire beaucoup plus complexe. En tous les cas, ils connaissent bien cette image des Juifs, qui ont été détruits dans leur pays. Et le soulèvement héroïque que j'évoquais tout à l'heure du ghetto de Varsovie, d'avril-mai de 1943. Mais là, dans ce musée, ben, il y a des ressemblances quand même. Il y a des ressemblances avec ce peuple martyr, ces 200 000 de 1944, de août et septembre 1944, de ces 63 jours, martyr et aussi qui est héroïque également. Donc il y a comme une double histoire, l'une venant un peu masquer l'autre, comme une sorte de concurrence victimaire. 1er août, la situation est connue, elle vient d'être évoquée dans les archives qu'on vous a fait entendre. Les Alliés ont débarqué sur les côtes normandes, le Reich est en train de perdre, la Wehrmacht est en train de perdre, elle s'apprête à quitter Varsovie, la Pologne. Les Soviétiques avancent à une vitesse extraordinaire, s'arrêtent le long de la Vistule, le fleuve qui borde Varsovie. Et là, l'armée polonaise, l'armée Krajowa, qui a réussi à se maintenir pendant toutes ces années, la résistance, c'est une résistance extraordinaire. Il faut rappeler que le gouvernement polonais est en exil à Londres. Et bien là, va décider le soulèvement de ces hommes mal équipés, mal entraînés, et de toute la population, pensant que on pourra. Puis, il faut se soulever soi-même, il faut se libérer soi-même, comme les Parisiens l'ont fait en 1944, c'est la même chose. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. La Wehrmacht va faire demi-tour, va faire volte-face, va avoir des renforts qui vont arriver, et ça va être l'écrasement de cette révolte, de cette insurrection, avec les Soviétiques qui ne bougeront pas pendant tout le temps, alors qu'une partie de ces insurgés, une partie du gouvernement, une partie des responsables militaires pensaient, comptaient, espéraient un soutien soviétique. Ils n'en auront aucun, pas plus que de soutien des Alliés. Les Alliés ne bougeront pas, il y aura quelques parachutages, quelques bruits, mais c'est pas possible. Parce qu'évidemment, il y avait des accords déjà établis entre les Alliés et Staline. Et donc, les Polonais seront écrasés totalement, tragiquement, ensuite déportés, c'est une horreur totale. Leur ville détruite à 85-95%. Ensuite, on connaît la suite de l'histoire. La Pologne tombera, versera dans le camp soviétique. Et là, l'esprit, l'idéologie qui s'installe va nier cette révolte, ce soulèvement, en disant c'était irresponsable, c'était une bêtise, ça ne devait pas se faire, certains l'avaient dit, alors c'est comme un crime contre le peuple. C'est cette version-là qui va prévaloir très longtemps, jusqu'à 1989, la chute du mur, où là, c'est la version qui prévaut, qui préside dans ce musée, va émerger à son tour et va fleurir dans les esprits et susciter l'adhésion des Polonais à cette version, non sans un certain esprit, je le disais, patriotique, un mélange d'esprit patriotique, national, nationaliste, avec une composante catholique, religieuse très forte, qui rend ce que nous voyons, ce que nous entendons, évidemment, assez ambigu. Alors, pour essayer de comprendre, on rencontre là Karol Moselewiczki, qui est une grande figure de la scène intellectuelle polonaise, qui est écrivain, médiéviste, mais qui est aussi un homme engagé, l'une des figures de Solidarność. On dit même que c'est lui qui avait trouvé le mot Solidarność, et qui nous donne son interprétation, sa vision de ce que fut cette héroïque insurrection.
Alors, qu'est-ce qui se passe en 1944,
professeur ? En 1944, l'armée de l'intérieur a pris la décision de faire l'insurrection pour libérer la capitale et manifester à l'armée soviétique et à l'Union soviétique la présence de la force armée et des autorités politiques polonaises indépendantes. Il faut dire que Jan Nowak-Jeziorański, plus tard directeur de la section polonaise de la radio Europe Libre. En cette époque, il est allé envoyer comme envoyé spécial de la clandestinité de l'armée à Craiova, de l'armée de l'intérieur, à Londres pour faire l'examen, pour ainsi dire, des circonstances politiques favorables ou défavorables à l'insurrection. Il a réussi à rentrer en Pologne 3 jours avant l'insurrection. Il a rencontré les commandements clandestins à Varsovie en disant que l'insurrection n'aura aucun soutien de la part des alliés occidentaux parce qu'elle est considérée un acte anti-soviétique par Staline, c'est-à-dire par les alliés orientaux des alliés occidentaux.
Ça, c'est le diagnostic qui est...
De Jan Nowak-Jeziorański, oui. Il a dit qu'aucune chance.
Le gouvernement polonais à Londres disait quoi ? Était favorable au soulèvement ?
Il ne disait rien. C'était l'armée à Craiova qui décidait. Anders, qui était le commandant de l'armée polonaise à l'Occident, déclarait que c'est un acte criminel et que les dirigeants de l'armée à Craiova sont bons pour passer devant le tribunal militaire pour cette décision irresponsable.
Quel était l'état de l'opinion ? Que voulait le peuple polonais à cette époque-là ?
Le peuple polonais n'avait aucune connaissance de réalité, pour ainsi dire, politique et militaire. L'insurrection était d'abord acquis avec un grand enthousiasme, et puis ensuite avec le désespoir. L'armée de l'intérieur, à Varsovie, comptait 18 000 de jeunes gens, y compris de très jeunes gens, des scouts, très mal armés, c'est-à-dire généralement pas armés du tout. S'ils avaient des armes, c'était des pistolets, et rarement des fusils, et des grenades de fabrication artisanale. Tandis que les Allemands étaient armés comme ils étaient armés, ils avaient des troupes d'élite, et lorsqu'ils ont décidé d'écraser cette insurrection, ils le faisaient d'une manière systématique.
Ces jeunes gens-là, ces jeunes scouts, et ils étaient manipulés ou ils étaient enthousiastes ? Quel était leur état
d'esprit ? Ils étaient enthousiastes, ils étaient formés comme ça. Ils étaient prêts à mourir pour la patrie, pour son honneur, pour sa libération, sinon pour son honneur. C'était l'éducation romantique qui était...
Romantique ?
Ça s'appelle comme ça chez nous, romantique et positiviste. Positiviste, c'est-à-dire réaliste, qui veulent épargner les pertes inutiles des Polonais. Et les romantiques, ce sont ceux qui vivent suivant le principe gloria victis, la gloire au vaincu.
La gloire au vaincu ?
Oui, c'est la tradition des insurrections nationales polonaises du 19e siècle. La gloire a vaincu.
Le 1er août, ce qui restait de Polonais à Varsovie eut le malheur de s'insurger. L'héroïque folie dura 63 jours.
Actualité française, 1957.
Lorsqu'en janvier, les armées soviétiques arrivèrent dans la capitale polonaise, il ne restait plus pierre sur pierre. Population, 15 habitants. La ville en comptait 1 600 000 en 1939.
Dans l'ascenseur, vous allez entendre une chanson patriotique polonaise. Prenez les armes, garçons.
On ne perd pas de temps, hein. Même dans l'ascenseur, on a... Et là, il y a des bombardements, on entend les bombardements.
Oui, c'est vrai, chaque 30 minutes, il y a un bombardement avec les missiles appelés le VASH par les Varsoviens, les missiles de Nebelwerfer. Donc ces missiles allemands. Il y a aussi la Varsovienne que vous entendez dans ce moment. La Varsovienne qui était écrite par un Français de Lavigne. Et dans l'ascenseur que nous allons entrer maintenant, il y a une chanson patriotique écrite par Krystyna Krahelska, la dame qui a posé pour la sirène de Varsovie. Entrez, s'il vous plaît. C'est un musée interactif. Et voilà la chanson.
Ah, est arrivé. Au deuxième.
Voilà la femme qui a écrit cette chanson, Krystyna Krahelska, et la statue de la sirène, le symbole de Varsovie, pour qu'elle elle a posé.
D'accord, magnifique.
la femme qui a servi de modèle à la sirène de Varsovie, qui est le symbole de Varsovie, a été infirmière. Elle a sauvé des blessés, elle est morte. C'est une héroïne, une véritable héroïne.
Et voici les uniformes utilisés pendant l'insurrection. Brassard blanc-rouge, bien sûr. Avec les lettres
W.
W, P, Wojsko Polskie, l'armée de Pologne.
Est-ce que l'armée polonaise était présente au moment du soulèvement du ghetto de Varsovie?
Il y avait aussi l'aide de la part des Polonais pendant ce soulèvement, de la part de notre organisation clandestine. Par exemple, ils ont porté les armes pour l'organisation de la lutte en ghetto. Et pendant l'insurrection de Varsovie, il y avait aussi des Juifs qui aidaient à cette insurrection. Par exemple, ils ont été libérés dans le camp de Gęszówka. Et ces Juifs libérés dans ce camp sont entrés dans cette armée secrète polonaise.
Pierwszy sierpień, dzień sławy, powstał naród w Warszawie i stolicę powoli zaczęła. I zatknęli na tapie barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów jak las. O, jaka rozkosz się w sercu rozpina, gdy wiz w ręku gra. A empi nigdy się nie zacina, wolna Warszawo ma. Głos przy naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. I za trudów i pełne ulice, za powstanie konkret.
Voici la part consacrée aux armes.
Ah oui, il y a une fascination pour les armes, les marques, les reconstitutions.
Seulement 10% des insurgés avaient des armes au début de l'insurrection. Ici aussi des armes faites par les insurgés eux-mêmes. Par exemple, il y a un mitrailleur Sten, originalement britannique. Mais celui-ci, il était fait au château royal de Varsovie. Son mécanisme marche encore. Voilà.
C'est vraiment bricolé, quoi. Hein. C'est un bricolage.
Il est bloqué. Il faut le libérer. Oh, il est prêt.
Oh. Ah bah là, je vais. C'est mauvais si mon arme est coincée.
Mais c'est enrayé, ta Sten.
Oui, ma je suis mal parti parce que les Allemands arrivent là. Oh.
Hein, il est bloqué. Et celui-ci, c'est une mitrailleur. Buskavica, cette mitrailleur éclair. Et voilà les grenades faites par les insurgés. Karbidovka, Sidolovka et Filipinka. Par exemple, Filipinka, ils ont dit que c'est une grenade de femme de ménage parce qu'il était fait d'une bottille de désinfectant pour la maison.
Et vous, Anna, vous avez étudié l'histoire ?
Non, j'avais étudié le français et l'italien. Mais l'histoire est toujours présente en Pologne. En fait, moi, j'étudiais dans le temps où on pouvait parler de l'insurrection, après 1989. Avant, ils ont raconté des choses bizarres. Parfois, ils n'en parlaient pas totalement. Parfois, ils ont associé cette insurrection avec l'insurrection dans le ghetto. Et par exemple, il parlait de ces insurgés comme des criminels avant 1956, en fait. La situation des insurgés était vraiment difficile. Ils étaient, par exemple, emprisonnés. Ils étaient jugés dans les tribunaux pendant le régime communiste. Parce qu'en fait, militairement, cette insurrection, elle était contre les Allemands. Mais politiquement, elle était contre les Soviétiques. Nous avons peur que nous allons être une république soviétique. Donc elle était contre les soviétiques aussi. Et c'est pourquoi les soviétiques étaient contre notre armée secrète. C'est pourquoi ces procès, par exemple, ces tribunaux, ces morts comme Pilecki.
Donc Pilecki qui a été un héros du soulèvement, qui a été jugé et
assassiné. On s'est créé en fait parce que nous n'avons su de Pilecki qu'il y a quelques années.
Voilà, le musée de l'insurrection de Varsovie, vous avez compris, est un enjeu de mémoire énorme. pour les Polonais, eh bien, je pense aussi pour nous tous, les Européens et ceux qui après tout, on est toujours dans l'après-guerre, il faut bien reconnaître qu'on est toujours aujourd'hui dans la suite de cette histoire. En tous les cas, les Polonais sont dans la suite de cette histoire. Il y a effectivement bel et bien ce clivage entre les romantiques et les positivistes. Enfin, c'est deux termes pour dire l'insurrection héroïque, courageuse, gloria victis, etc. Tout ce côté récurrent dans l'histoire polonaise de la résistance fut-elle désespérée, et puis ceux qui pensent, avec les soviétiques, enfin avec toute cette époque, que non, il fallait pas, et ça, ceux-là, on les appelle les positivistes. On retrouve l'historien Karol Mozelewski.
Pour Staline, c'était un cadeau, à vrai dire. On savait d'avance. Et Staline, vers la fin de l'insurrection, en septembre 1944, a demandé à Joukov, Maréchal Joukov, de faire une simulation. Quel sera le prix de libérer Varsovie par l'armée soviétique en ce moment-là? On a évalué ce prix aux environ 100 000 victimes. Et c'est pas ça qui a arrêté Staline, parce que Staline se fichait des milliers, des millions de morts de ses soldats. C'était le calcul politique. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Et un fort effet des sentiments anti-soviétiques en Pologne, parce que tout le monde était convaincu, à juste titre, que les soviétiques ont arrêté leur offensive et n'ont pas prêté aucune aide aux insurgés. De surcroît, il faut dire que Staline a refusé de donner aux avions anglais, guidés par les pilotes polonais, qui survolaient l'Europe pour jeter les ravitaillements et les armes aux insurgés à Varsovie, la possibilité d'atterrir aux aéroports dans la zone soviétique, pour que le vol sur Varsovie soit moins risqué. Ces avions arrivaient quand même, mais plusieurs ont été abattus par les Allemands.
Voilà des Polonais trahis et vaincus.
On peut le dire, oui. C'est très pathétique, mais on peut le dire, certainement. Puis, comme conséquence, les combattants de l'armée de l'intérieur, que j'ai eu l'occasion de connaître bien, étaient très amers.
Ben oui,
et il disait que la décision de faire l'insurrection était une décision stupide, voire presque commanders.
Aujourd'hui, quelle est la place de cette époque? Est-ce que c'est un symbole pour le nationalisme?
Oui, c'est un symbole pour le droit à justice. C'est un parti, on peut dire que c'est un parti populiste qui a pris certains éléments de la tradition de Grande Solidarność, certains décors de l'insurrection de Varsovie, oui, ça c'est très fort. Ils instrumentalisent dans les luttes politiques actuelles qui n'ont rien à voir avec notre indépendance ou avec notre dépendance, la tradition de l'insurrection, c'est-à-dire la tradition romantique.
C'est une récupération.
C'est une espèce de récupération qui, pour une partie pas négligeable de la population polonaise, est efficace. C'est une population qui se sent endommagé par la transformation du système économique.
Ce parti est anti-européen, droit et justice?
Oui, le droit et justice est, comme ils disent, sceptique.
Eurosceptique.
C'est une manière délicate d'exprimer la tendance anti-européenne.
Catholique?
Oui, très catholique. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont croyants, mais ils sont très catholiques.
Et ils font à peu près 28% sur la scène électorale?
Pendant plusieurs années, dernièrement, il était la forte minorité, dans les sondages entre le 20 et 25%. Et maintenant, ils sont en montée.
Alors, il y a un musée de l'insurrection. Qu'est-ce que vous pensez de ce musée? Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont cette histoire est présentée aux touristes?
Dans la plaisanterie, on raconte que les enfants, parce que c'est fait surtout pour les jeunes et les gosses, ils sortent et ils demandent, mais c'est nous qui avons gagné.
Il était juste que la Pologne célébrât dans la victoire l'anniversaire de la guerre.
Actualité française, 1945.
Dans Varsovie détruite, c'est un chef d'État polonais qui évoque dans une Pologne libérée, aux côtés de l'ambassadeur de France, le miracle de la résurrection polonaise. Cette nation a dû plier sous la force. Elle n'a jamais abdiqué ni sa volonté ni son espérance. C'est cela qui lui a donné la force de combattre même vaincue. C'est cela qui lui donne la force de renaître même détruite. Car on sait ce que les Allemands ont fait de la Pologne. Ils ont inventé pour elle le verbe poloniser. Et cela n'a rien empêché. Les Polonais ont combattu dans Varsovie, Et s'ils ont accepté que leur ville soit détruite, c'est qu'ils voulaient qu'elle fût libre. Quel Français refuserait de s'associer au malheur de nos amis polonais en songeant que Paris a pu se libérer sans être anéanti? Mais aujourd'hui que se sont tus les bruits de la guerre, Varsovie est une ville morte. Une ville qu'on a tuée deux fois en 40 et en 44. Une ville qui a accepté de mourir deux fois. Qui reconnaîtrait quelque chose dans ces rues où le passant marche sur deux étages de gravats? Varsovie est une ville morte, morte, mais libre.
Alors, comment se surpérer entre la façon dont notre jeune guide Anna présente au musée de l'insurrection cette insurrection de 1944, l'analyse de Karol Moselewski, grand historien, homme engagé, qui connaît son histoire, mais qui a évidemment lu aussi sa version, son interprétation. On comprend un enjeu capital de mémoire dans cette capitale de la Pologne qu'est Varsovie. Une autre rencontre avec un chercheur, un universitaire éminent, qui lui aussi est dans la perplexité par rapport à cet enjeu majeur, Adam Ostolski.
Ce musée, bien entendu, est très important pour la culture polonaise, pour la perception de soi de la nation polonaise, et aussi pour raconter l'histoire du passé. En même temps, ce musée, je crois, est très manipulateur dans la manière dont il raconte cette histoire.
Est-ce que tu penses que ce musée représente quelque chose par rapport à la mémoire juive de Varsovie ou de la Pologne? Quand on dit Pologne, on pense à la destruction des Juifs, et puis si on dit Varsovie, on pense au soulèvement du ghetto de Varsovie. On a deux images, la destruction des Juifs, le soulèvement du ghetto de Varsovie. Voilà. C'est des choses qui sont accablantes, évidemment, pour les Polonais. Pour les Polonais non-juifs, c'est quelque chose qui est accablant. Depuis longtemps, les Polonais, surtout en France avec le film de Claude Lanzmann, sont accusés de tous les maux, d'avoir trahi, d'avoir été indifférents, d'avoir laissé faire, d'avoir collaboré, etc. Donc ils sont dévalués. Et puis, il y a l'héroïsme juif du soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943. Là, ce musée a l'air de dire, mais attendez, nous, les Polonais non-juifs, nous aussi, on est des martyrs. Regardez voir, 200 000 morts en 63 jours, c'est quand même un martyr. Et deuxièmement, le soulèvement, le courage, l'honneur, le courage humain contre la barbarie, c'est nous aussi, contre une double barbarie, contre la barbarie nazie et puis contre la barbarie stalinienne. Voilà, alors, oui, les Juifs, mais nous aussi.
C'est une interprétation valide, mais c'est pas tout. Je crois que l'opposition polonaise-juive, c'est spécifique, c'est intime, parce que ça touche à la construction interne de l'identité polonaise. Dans ce musée, cette relation s'exprime, parce que les Juifs sont présents, mais partiellement. On ne touche pas les points difficiles, les points douloureux, les points honteux des relations entre les Juifs et les Polonais pendant l'insurrection.
C'est-à-dire ?
Les combattants juifs n'étaient pas admis aux armées clandestines polonaises comme juifs, parce que c'était dangereux pour eux. Le point 2, c'est un vrai problème que quelques troupes de cette armée clandestine d'État polonais officiel ont tué des juifs. Ce n'est pas le moment le plus important dans l'insurrection, mais c'est un point de vérité. Et ce qui me manque dans ce musée, c'est une débat. Parce qu'il y a beaucoup de points à discuter, à reconstruire notre démarche vers le passé, touchant des points difficiles. Et je crois que ce musée ne les touche pas.
Chaque époque, de toute façon, construit son roman national, son histoire, surtout depuis qu'on a des nations. National, ça veut dire qu'on a des nations. Et là, c'est une construction. Qu'est-ce que ce musée, si on se retourne, raconte sur votre Pologne d'aujourd'hui?
C'est une grande question. Mais maintenant, je dis que nous sommes à la croisée de chemin parce que je pense que ce paradigme est en train de s'épuiser. Et maintenant, c'est plutôt la compétition de mémoire, la compétition de traumatisme on peut dire même marché de mémoire.
Un marché international
de mémoire.
International de la mémoire.
La souffrance de notre nation, c'est un capital dans ce marché. On présente, sans le dire ouvertement, l'histoire de souffrance polonaise comme l'histoire unique.
C'est pas seulement un équilibre de mémoire, mais c'est cette mémoire-là qui voudrait venir devant.
C'est ça.
Mémoire nationale, virgule, nationaliste.
Ça, c'est difficile. Parce que nous touchons au concept de nationalisme, mais je pense que c'est précisément la faiblesse de l'identité nationale qui demande cette sorte de confirmation.
Merci à tous, Adam Ossolski, Karol Mozelewski, Eva Suffin, merci à tous. C'était un reportage d'Antoine Chao et de votre serviteur à Varsovie. Toutes les informations sont sur le site de France Inter à la rubrique émission La Base où j'y suis. À la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos, Élise Christophe, au montage Guillaume Giraud. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attend vos messages sur le répondeur de La Base où j'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour La Base si j'y suis, toujours en Pologne. Et je vous laisse tout de suite avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Ce qu'on peut remarquer, c'est que la ville n'est pas de niveau.
Oui, il penche. Le présentoir penche. Mais vous savez, vous êtes à Belleville.
Et comme on voit un gros plot en béton au pied du présentoir, on peut subodorer qu'il s'est déjà éclaté la tête par terre deux, trois fois, ce truc.
Et alors, on voit quelques cartes postales qui représentent les plaques que vous détournez, où il y a marqué eau et gaz à tous les étages. Là, vous avez, par exemple, mis noyade interdite.
Oui, oui. Un autre qui est, par mesure d'économie, les R, donc la lettre R, sont supprimées.
Apatite de maintenant.
C'est vrai.
Voilà.
Alors, donc on traverse le Jourdain, en fait.
Ah, c'est le Jourdain.
Ça, c'est le Jourdain.
Ouais. C'est joli, ça. Et vous, vous avez des librairies des deux côtés du Jourdain.
Voilà, on la traverse toute la journée.
C'est biblique, c'est ce qu'on fait, là. Bonjour à tous et bienvenue. Comment elle s'appelle, cette librairie ?
L'atelier.
Bienvenue à l'atelier, en compagnie de Nicolas. Ah, je ne connais pas votre prénom.
Natacha.
Plonk et replonk. Et Lionel Houébec.
Oui, à la française.
À la française. Ça marche bien, plonk et replonk, chez vous ?
Ouais, ça marche bien. Hein. Ouais, l'humour suisse est à le vent en poupe ici.
Ce qui est extraordinaire les concernant, c'est la première fois qu'ils vont être publiés par l'éditeur, nous en l'occurrence, moi. Mais si tu veux, c'est qu'ils sont du fin fond des montagnes suisses, à 1000 mètres d'altitude, ils n'ont pas de diffuseur, ils n'ont pas d'éditeur, ils n'ont pas d'attaché de presse et ils cartonnent.
Vous donnez des cours dans les écoles de marketing ?
Non. Disons qu'on aurait dû la peine à faire un business plan pour fabriquer des cartes postales ou des lins bétonnés.
En fait, vous avez commencé petit et puis ça s'est développé et vous avez suivi, quoi.
Ouais, en gros, ouais. Vous l'avez très bien dit.
C'est bien, hein. Bon.
C'est un bon résumé, formidable.
Moi, j'ai demandé aux libraires, on a beaucoup parlé des problèmes des libraires là, avec Amazon et tout ça, vous. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Faut arrêter d'acheter sur Amazon, que dire de plus ?
Ah oui, mais attendez, parfois c'est pratique, il y en a, le libraire il vous dit, bah non, je ne l'aurai pas avant une semaine, et puis sur Amazon, on le...
Je ne sais pas, Plonk et Replonk, vous êtes sur Amazon ?
Non.
Voilà. Deux bonnes raisons.
Bon, et l'éditeur ?
Les libraires, c'est pas terrible, puisqu'on sait qu'il y en a 57 qui risquent de disparaître d'un coup avec la faillite d'un grand groupe. Donc 57 librairies, les grandes librairies en France, ça fait beaucoup d'un coup. Amazon, oui, il y a des mesures qui sont prises, mais c'est trop tard. Il faut laisser se réveiller plus tôt.
Ah oui. Donc quoi, c'est la fin des libraires, vous pensez ?
Non, c'est pas du tout la fin des libraires, mais c'est une immense puissance mondiale. Et je crois qu'ils ont 50 fois la richesse de tous les éditeurs américains réunis. Et c'est pas les petites mesures. Non, je crois que ce qui énerve aussi beaucoup les pouvoirs français, c'est qu'ils payent pas leurs impôts. Ils sont domiciliés au Luxembourg et ils gagnent de l'argent, ils donnent pas un seul euro. C'est ça aussi qui énerve beaucoup le pouvoir en ce moment. Mais Amazon, c'est trop tard. Je le regrette aussi, alors moi je ne suis pas libraire, mais moi je suis éditeur, je le regrette aussi parce que du coup ça renforce, excuse-moi, tout le respect que j'ai pour les journalistes, ça renforce considérablement le pouvoir de la presse, puisque les gens avant ils avaient un intermédiaire entre l'éditeur et eux-mêmes, c'était la librairie. La librairie soit par les conseils de libraires ou pas, mais en tout cas par le feuilletage des bouquins, par la découverte en se promenant. Aujourd'hui, quand tu es sur Amazon, généralement, et moi je le vois, quand il y a des articles, quoi que ce soit, les ventes s'explosent sur Amazon. Donc c'est tout pouvoir d'information aux médias.
Moi, tabler sur la disparition, soi-disant sur un changement civilisationnel, j'y crois pas plus que ça. Même s'il y a des choses qu'il faut prendre en compte, changer des méthodes. Nous, on a un site en ligne, on s'est groupé avec plusieurs libraires, on mutualise les stocks. Voilà, il y a des formes d'action. Pas de résistance, mais d'action, de changer des choses et tout. Mais par contre, oui, il faut savoir à quoi on tient. Et on sait ce à quoi on tient. Et on voit bien même, moi, l'histoire des fichiers numériques.
Vous y croyez pas ?
J'y crois pas, parce que économiquement, s'il y a des gens qui veulent que ce soit établi, ils le feront. Ils ont la puissance économique et la capacité de dumping qui font qu'ils arriveront à l'imposer s'ils veulent. Mais pour ce qui est des gens, ils ont l'air ravis du format aujourd'hui.
Du livre, quoi.
Il faut faire la part aussi de ce qui est du lavage de cerveau en disant l'avenir c'est là, le progrès c'est là, donc allez-y tous. Et puis de volonté de profit. Ça fait plein de. C'est hyper vaste.
J'entends ça. Et plonk et replonk, ça vous inspire une petite carte postale, ce que vous entendez ?
Bah, peut-être que je cherchais un livre sur les Amazones. Vous avez ça ? Dame avec à moitié à poil, avec un arc, en train de planter une flèche dans le cul d'un monsieur.
On va essayer de trouver ça.
Sinon, je vais devoir le commander.
Et ça va pas, si ça met pas à 6 jours et tout ça, c'est pas vrai. Ça va.
Mais ça m'est arrivé.
Oui, mais ça dépend aussi de l'éditeur, ça dépend de ce que j'appelais le réseau de distribution, ouais. En fait. Et puis après tout, 6 jours, bah.
On lit autre chose en attendant.
Oui, voilà.
C'est vrai.
Et puis ça dépend de où on est. Il y a des livres, nous on arrive à les fournir le jour même ou le lendemain au pire. Ouais. Donc faut arrêter avec ce. Moi je sais qu'une fois j'étais allée à Marseille et un monsieur qui vient, qui commande un livre, le libraire lui dit dans 5 jours et le client lui fait ah, dis donc, ça va vite. Moi j'étais dans la librairie, c'est fou, moi on me le demande pour hier. Quoi. Ouais. Donc après faut remettre les choses aussi un peu en ordre, doucement, détendu, décontracté.
Très bien. Bon, et si on veut en savoir plus sur Plonk et Replonk, il y a De 0 à Z, édité par Houellebecq, ici présent, et dans toutes les bonnes librairies.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité avec Maxime Deps.
Comment les écologistes peuvent-ils rester au gouvernement ? Cette question, c'est Christian Jacob, le chef de file des députés UMP, qui la pose. Après l'annonce faite par Jean-Marc Ayrault à la mi-journée, le Premier ministre a décidé finalement de suspendre l'écotaxe qui devait entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Une reculade invraisemblable, estime José Bové, qui fait suite au mécontentement affiché par les transporteurs et agriculteurs bretons. Trop, c'est trop. Pour Noël Mamère, la décision de Jean-Marc Ayrault montre le peu de considération à l'exécutif pour la transition écologique. Un nouveau hold-up dans une bijouterie à Lille, cette fois en plein centre-ville. Aujourd'hui, 4 hommes casqués, gantés et armés sont entrés dans le magasin où se trouvaient à ce moment-là 10 d'employés ainsi que 2 clients, une femme et un enfant. Les malfaiteurs sont repartis quelques minutes plus tard avec dans les bras des montres de luxe pour un montant total du butin estimé à 400 000 euros. Le nord de la France, où une personne de 43 ans est hospitalisée depuis hier à l'isolement complet, soupçonné d'avoir contracté le coronavirus lors d'un récent séjour en Arabie Saoudite. L'état de cette patiente est stable, précise le ministère de la Santé qui a dévoilé l'information. En mai dernier, un homme est mort après avoir contracté ce même virus qui a fait en tout 60 de victimes ces derniers mois à travers le monde. Dans l'affaire des écoutes de la NSA, une nouvelle réaction aujourd'hui, celle de Viviane Reding, la vice-présidente de la commission à Bruxelles, qui se trouve actuellement aux États-Unis. Les amis et les partenaires ne s'espionnent pas, selon elle. Il est urgent et crucial que nos partenaires américains agissent pour rétablir la confiance avec les Européens. Un vice-premier ministre démite ses fonctions en Syrie. Bachar el-Assad met à la porte l'homme qui était jusqu'ici chargé des affaires économiques à Damas, Kadri Jamil, un ancien opposant rallié au régime. Il y a trois jours, ce dernier aurait participé à une rencontre avec l'ambassadeur américain Robert Ford, chargé du dossier syrien. Ensemble, ils auraient évoqué la conférence de paix que l'ONU cherche à organiser. Un rendez-vous que Bachar el-Assad n'a visiblement pas digéré. Au Masters de Paris-Bercy, en tennis, ça passe pour Nicolas Mahut. Le Français s'est qualifié cet après-midi pour le deuxième tour en disposant l'Ukrainien Alexander Dolgopolov. Victoire en deux manches, 7-6, 6-1.
Baptiste, vous faites quoi jeudi à 21h?
Bah Aurélie, je serai avec vous dans le bureau, on préparera ouvert la nuit.
Non, je vous emmène à l'Olympia.
Ah bon?
Et on présente l'émission de là-bas.
Avec qui?
Avec Rhône. C'est un jeune savant fou qui compose une musique électro-futuriste, lumineuse, fiévreuse et galactique.
Vous voulez dire qu'il va transformer l'Olympia et ses fauteuils en velours en dance floor géant le temps d'une soirée sur France Inter?
Mais oui, Baptiste, moi je vous imagine déjà en train de danser en serrant vos petits poings comme ça contre vous.
Et vous, Aurélie, je vous vois déjà planer comme un albatros.
Rhône en concert, ouvert la nuit, en direct de l'Olympia.
Jeudi,
21h,
sur France Inter.
Sans faute.
France Inter.
La voix est libre.
16h04 sur France Inter, tout de suite c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Vous recevez cet après-midi Alexandre Tarot.
Eh bien voilà, on a bien de la chance. Merci Maxime Debs, on vous retrouve à 17h et puis à 16h30 je recevrai le chef d'orchestre et violoniste Jean-Christophe Spinozzi. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Eh oui, Alexandre Tarot est là, j'en suis très heureux. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors vous êtes très très occupé en ce moment parce qu'il y a un disque qui vient de paraître, Autographe. Autant dire que c'est un cadeau merveilleux parce que ce sont des bis, ce sont vraiment des bonbons, des fleurs, c'est un florilège, c'est une anthologie, c'est presque un portrait parce qu'il y a plein d'œuvres très différentes de compositeurs d'obédience et d'origine et d'époque aussi très très distantes parfois. Et d'autre part, il y a un livre aussi qui paraît, Piano Intime, Alexandre Tarot, et avec Nicolas Souton, c'est chez Philippe Ray, c'est très intéressant sur votre manière de travailler, de vivre aussi. Et puis, pour ne pas s'arrêter là, il y a un film chez MK2, demain, donc Alexandre Tarot, Le Temps Dérobé. Vous en reste du temps, un tout petit peu quand même?
Là, cette semaine, pas beaucoup.
Non, pas beaucoup. Alors, on va aller au vif du sujet, justement. Avec ce disque, Autographe, ça a été conçu comment? C'est une idée de cadeau. Je ne sais pas, on est loin de Noël, encore, on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est vraiment le cadeau de Noël idéal
oui,
pour les gens qui aiment
pensé,
le piano.
J'avais pas pensé à ça.
Ah non, ben voilà, je vous le donne.
Vous savez, dans les années 60, avec l'avènement du 33 tours, donc on va dire à la fin des années 60, surtout dans les années 70, on a vu un grand nombre de pianistes enregistrer ce style de programme, un disque de bis, comme vous le disiez, un florilège de bis. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, à les écouter, ces disques, il y avait des disques de Horowitz, Rubinstein, Aldo Ciccolini, Lazar Berman, de grands pianistes de cette époque, je me suis rendu compte que ces programmes étaient toujours faits d'une certaine manière comme des autoportraits. Alors, à ma manière, j'ai concocté un petit bouquet de 23 pièces courtes, puisqu'il s'agit de bis, les pièces que je joue régulièrement à la fin de mes concerts, des pièces courtes, d'époques différentes, comme vous le disiez, de climats différents, mais qui, je crois que c'est un programme qui se tient. J'aimerais, dans l'idéal, que l'auditeur écoute ce disque d'un seul tenant, comme s'il s'agissait d'une musique venant d'un seul compositeur.
Ouh là là, la diversité dans la cohérence.
Ambitieux,
c'est ça votre
peut-être
but. Enfin bon, pourquoi pas. Une belle proposition en tout cas. Un auteur qui vous est cher depuis très très longtemps, Frédéric Chopin, la valse dite Minute ou du Petit Chien. Thank you. La valse opus 64 numéro 1, dite du petit chien de Frédéric Chopin, parce qu'il aurait vu un petit chien courant après sa queue, lui. Donc ça l'aurait inspiré. Enfin, peu importe la légende, mais en tout cas ça tournoie, c'est charmant. Mais on ne danse pas sur une valse de Chopin, Alexandre Tarot, parce que évidemment il y a la notion du roubateau, il y a la notion de cette souplesse qui pourrait déséquilibrer le danseur.
Oui, on ne peut danser sur aucune valse de Chopin finalement, parce que chez Chopin il y a, comme vous le dites, le roubateau, ce tempo qui bouge, donc il n'y a pas la régularité.